Donc en fait, le but du cours, c'est de traverser la révélation de Dieu dès son origine jusqu'au Nouveau Testament. Et vous voyez, le dernier cours, enfin l'avant-dernier cours, il s'intitule « De la révélation à l'acte de croire ». Et l'acte de croire à la foi en acte. En fait, l'idée, c'est quand même de dire, on ne vient peut-être pas à la théologie uniquement par la foi, on peut venir à la théologie par intérêt intellectuel, mais pour bien entrer dans la dimension de la révélation, la foi est quand même requise. Alors après, peu importe de l'endroit où vous en êtes, dans la foi ou pas, foi perdue, abandonnée, en veilleuse, vous voyez, ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que on parle de la révélation de Dieu. Donc, ça veut dire que vous arrivez avec vos questions et vos questionnements et que vous aurez des questions. Donc, on est ensemble pour un semestre. Ben, vous avez des questions, moi je suis là pour y répondre. Si vos questions arrivent plutôt à la fin du cours et que je suis un peu pressée par le temps parce que ben, il va falloir que je clôt le cours et que je dois aller à l'ICP, à ce moment-là, vous envoyez vos questions à Hélène. Et puis moi j'y réponds la fois d'après, en début de cours. Mais vous voyez, quand on regarde le plan, on est vraiment, Dieu se manifeste, et c'est pas Dieu se manifeste, c'est Dieu veut se manifester. Donc on est là, déjà, bah, on a déjà en tête, il y a une volonté chez Dieu de se volonté, c'est pas un accident quand il se révèle, c'est pas un hasard, il le décide, c'est une décision. Ensuite, on a un cours sur le témoignage, parce que les Écritures vont témoigner de la manière dont Dieu s'est révélé. Ensuite, cette Écriture, ben, ce n'est pas Dieu qui l'a écrite, ce sont les hommes, donc on est devant un paradoxe. Parole de Dieu, puis en même temps parole d'homme, qu'est-ce que ça nous dit, toutes ces paroles écrites par les hommes? Et puis ensuite, on passe dans l'incarnation du Verbe, là aussi une décision volontaire du Père d'incarner le Fils. Ensuite, le Fils, ben forcément, l'événement Jésus-Christ, la Passion, le mystère pascal, confesser Jésus-Christ ressuscité, mort et ressuscité. Une fois qu'on a confessé Jésus-Christ mort et ressuscité et l'incarnation, ben, ça nous dit quelque chose de la Trinité. Parce que sans l'incarnation du Fils, on ne parle pas de Trinité. Et donc tout cela, ça fait partie de ce que nous connaissons dans la religion catholique. Ensuite, vers la fin, ce sera plutôt deux cours sur l'originalité de la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne est originale. Elle est particulière. Vous voyez, ce matin, je donnais un cours où vraiment on parlait du libre arbitre, de la liberté de l'homme, de la conscience de l'homme. Ben voilà, c'est ça la religion chrétienne aussi. C'est le libre arbitre contre Luther, par exemple. Vous voyez, c'est quand même étonnant de se dire, on découvre ça aussi en théologie. Et donc le cours 9, justement, le cours 9, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant ces séances? On a fait de la théologie. Comment je me suis déplacée par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris ou ce que je n'ai pas compris? Et puis comment ça va impacter ou pas ma manière de croire, la foi? Et puis de la dernière séance, on fera une reprise. Suivant vos questions, l'orientation de vos questions, voilà, vos intérêts aussi, vos préoccupations, parce que j'imagine que vous arrivez avec une motivation particulière pour un parcours comme ça. Et donc, voilà. Est-ce que ça vous convient?
Oui.
Voilà. Donc voilà.
Merci.
Donc s'il y a des parties plus magistrales, vous inquiétez pas, c'est pas... Donc vous avez le plan chaque semaine, vous avez les textes qui vont avec le cours, donc c'est des textes qu'on lit, voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Ah oui, ce cours-là, il a lieu aussi le soir, mais ce n'est pas moi qui le donne, de 20h à 22h, parce que moi je donne un autre cours à l'ICP de 20h à 22h, donc je ne peux pas être partout. Mais si vous, par exemple, si vous avez l'envie d'écouter Brigitte Chaudhuy, qui a été elle-même mon professeur quand j'étais étudiante, ben voilà, vous avez face à vous deux manières de faire de la théologie. Le fondement, il ne change pas, parce que la révélation de Dieu, ni l'une ni l'autre ne vont changer les fondamentaux théologiques de la révélation. Mais on fait de la théologie avec ce qu'on est, avec sa personnalité. Donc, vous aurez, ne soyez pas surpris, si bah, vous avez deux manières d'aborder la théologie et deux discours à la fois similaires et en même temps pas différents, mais des choses sont dites différemment. Voilà.
Vous êtes prêts? Alors, je m'assieds. Je prends le micro aussi parce qu'on ne m'entend pas toujours. Voilà. Alors, dans ce parcours, vous l'avez compris, on va aborder... Vous m'entendez? Là, ça marche? Je sais pas si je vais peut-être faire ça. Peut-être mieux ça. Hein, on va aborder la manifestation de Dieu. Donc ça, c'est un fondamental. Dieu, à un moment donné de l'histoire des hommes, a décidé de se révéler et a décidé de se manifester. Donc cette décision, elle va avoir avec une dimension qui est une dimension théologique, qui est celle de l'élection. Parce que lorsque Dieu décide de se révéler, il ne se révèle pas n'importe où, et il ne se révèle pas à n'importe qui. Ça veut dire qu'il choisit là où les personnes, et dans l'Ancien Testament c'est plutôt au singulier, la personne, l'homme, à qui il veut se révéler. Donc ça, ce thème-là du choix, ce thème de l'élection, c'est un thème théologique, parce qu'on va le retrouver aussi dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus commence son enseignement, au départ, il choisit 12 hommes choisis au milieu du peuple. Là aussi, il y a une élection, il y a un choix. Et donc pour Dieu, se manifester, c'est un acte volontaire, et c'est même son désir, parce que l'on peut parler de désir en Dieu. Et pour l'homme, cette révélation, c'est un acte de salut. Dieu se manifeste parce qu'il veut sauver l'homme. C'est un acte de salut. Un acte de salut et même une grâce. Cela doit être reçu comme une grâce. Dieu est avec l'homme. Et c'est en Dieu que la révélation trouve son origine. Alors Dieu va se manifester à l'homme de différentes manières, et lui seul choisit les manières de se manifester. Donc la première manière que nous connaissons, parce que l'Ancien Testament en témoigne, c'est sa parole. Dieu s'adresse à l'homme. Donc il se manifeste par sa parole. Et puis on a des exemples dans l'Ancien Testament où on a des manifestations cosmologiques, dans le tremblement de terre, dans l'orage, avec Moïse dans le buisson ardent. Voilà, on a des manifestations qui sont des manifestations tout à fait surnaturelles. Et puis on a aussi des manifestations par ce qu'on appelle la médiation. Il y a ça aussi en théologie, le thème de la médiation. Et là, on va voir, enfin j'espère vraiment qu'on aura le temps, mais on prendra le temps de regarder le tableau de Rembrandt sur la ligature d'Isaac, sur le sacrifice d'Isaac. Et bien aussi, il y a des médiations de Dieu par l'intervention d'un ange. Et là, dans le tableau de Rembrandt, on voit bien, c'est l'ange qui arrête la main d'Abraham, qui tient le couteau prêt à sacrifier son fils. Donc, voilà des moyens. La parole, la médiation, les manifestations cosmologiques. Puis vous allez me dire, ben oui, mais moi je me souviens, dans l'Ancien Testament, il y a aussi des prophètes qui ont entendu Dieu les appeler, ou qui ont eu des visions dans des songes. Eh bien oui, il y a ça aussi. Dieu se manifeste à travers les songes, ou alors il va appeler. Si on revient à Abraham, l'expérience que fait Abraham, c'est une expérience particulière, parce que c'est une expérience qui lui est adressée. Abraham fait l'expérience personnellement de Dieu qui se révèle à lui. Donc, on voit bien la volonté du divin, de Dieu, de choisir une personne en particulier. Pourquoi Abraham ? Ça, je ne saurais vous dire. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que pour celui à qui Dieu se fait connaître, c'est une expérience fondamentale, radicale, bouleversante et fondatrice d'autre chose. Parce qu'Abraham, il était d'une tribu païenne, son père vouait un culte à la lune, et pourtant, c'est à cet homme-là, dans cette région-là du monde, que Dieu s'adresse à lui. Alors peut-être qu'Abraham avait l'intuition que le Dieu ne pouvait être qu'unique, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et contrairement au culte païen où on va rendre un culte à plusieurs dieux, peut-être avait-il cette intuition qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Dieu pour tous. Bon, on est là vraiment dans la conjecture, donc voyez. En tout cas, l'accomplissement de la révélation depuis Abraham va arriver à son accomplissement avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, avec le Christ, avec Jésus, la révélation est accomplie. Et de l'Ancien au Nouveau Testament, nous sommes bien là dans un témoignage, dans un héritage de l'Écriture, un témoignage et un héritage de la manière dont Dieu s'est manifesté aux hommes, et certains hommes, dont les prophètes, la plupart, ont mis par écrit ce qu'ils ont vécu. Donc l'Écriture, c'est un témoignage de la révélation de Dieu. C'est par l'Écriture que nous savons et que nous connaissons comment Dieu s'est révélé, à qui il s'est révélé, où il s'est manifesté et pourquoi il s'est manifesté. Ce qu'il y a d'important entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que les deux testaments vont témoigner de la même révélation, de la même chose. L'un ne dit pas le contraire de l'autre, c'est la même révélation. En revanche, les manières dont Dieu décide de se manifester, de se révéler, sont différentes. Ça veut dire que les moyens que Dieu met en œuvre sont différents. Est-ce que ça va pour vous jusqu'à présent ? Bon. Alors, je vous parlais tout au début de la volonté de Dieu de se manifester et même de son désir de se manifester. Alors, je vais vous lire le premier texte, qui est un texte de la Constitution dogmatique de Vatican II, Dei Verbum, qui est un des premiers textes qui a été mis en débat, et c'est le dernier texte qui a été voté. Voilà, c'était le texte le plus important, mais c'était celui qui a fait le plus débat, donc voilà. Mais au final, on a un texte très beau, théologiquement et même spirituellement, lié aux articulations, lié aux références bibliques, aux références aussi des pères de l'Église. Voilà ce que nous dit le paragraphe 2 du chapitre 1 de Dei Verbum. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Dans cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu'à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation comprend des actions et des paroles intimement liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqué par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute révélation. Alors vous voyez, par exemple, le terme de médiateur, il est déjà dans le texte de Dei Verbum. Donc, le Fils est le médiateur du Père. On est bien dans une dimension de médiation. Si on reprend un petit peu les thèmes. Se manifester et se faire connaître, c'est sa volonté et son plaisir. Eh bien oui, on découvre qu'il y a du plaisir en Dieu. Ça lui plaît à Dieu de se manifester, de se faire connaître. C'est pour cela que je vous disais qu'il n'y a pas de hasard en Dieu, que la révélation n'est pas un accident cosmologique ou je ne sais quoi. C'est une décision. Et au moment opportun, Dieu décide de l'incarnation du Fils. Ça aussi, c'est une décision. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce texte-là ? On peut retenir que Dieu ne révèle pas autre chose que lui-même. C'est lui-même dont il est question. Dei Verbum nous dit, il se révèle en personne. Le texte nous dit aussi, il va se révéler par des actes et par des paroles. Et ces actes et ces paroles, ça constitue quelque chose de particulier en théologie, c'est une économie. Il y a une économie de la révélation. Comme l'économie en finance. Une économie de la révélation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu va se donner les moyens de se révéler. Et ce sont ces moyens qui vont constituer un principe économique. Dieu décide de se révéler, il parle, il s'adresse à quelqu'un en particulier, il va poser des actes de libération, par exemple, libérer le peuple hébreu de l'asservissement en Égypte, ça c'est un acte, voilà, il va le nourrir pendant les 40 ans où ils sont dans le désert, et puis au moment où il juge opportun, il va incarner, voilà, le Verbe s'est fait chair, l'incarnation du Fils, et bien tous ces éléments-là, j'allais dire ponctuels, mais vous voyez, quand je dis ponctuel, c'est un peu bizarre, parce que quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui s'est produit maintenant et qui ne se produira plus. Alors c'est vrai, et en même temps, il y a un certain paradoxe, parce que la révélation, quand elle est économique, ça veut dire qu'elle se poursuit. C'est-à-dire que Dieu utilise les moyens pour se révéler à des moments de l'histoire des hommes, en fonction de l'histoire des hommes du moment. Vous voyez ? Vous comprenez ça ? Il y a quelque chose qui est lié à au moment, quoi. C'est vraiment... Donc, tout ça, c'est économique. Il y a une économie, une mise en œuvre économique. Pour faire court, ben, j'ai d'abord réfléchi à ce que j'allais vous dire. Ensuite, j'ai lu des choses. Ensuite, j'ai mis par écrit ce que je savais. J'ai organisé, vous voyez, j'ai mis en œuvre une manière économique avant de vous livrer le cours. Il y a toute une mise en œuvre. Et vous, vous faites ça aussi pour plein d'autres choses. Donc, l'économie dont l'incarnation du Fils fait partie, donc ça fait partie de la manifestation divine, et elle est en vue, nous dit Dei Verbum, de la participation des hommes à cette manifestation. Parce que qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire, voilà, eh bien, le Verbe s'est fait chair, accède dans l'Esprit Saint auprès du Père. Et donc les hommes, grâce auxquels les hommes, hein, par le Christ, sont rendus participants de la nature divine, ils s'entretiennent avec eux pour les inviter, les admettre à partager sa propre vie. Bien voilà, c'est-à-dire qu'il y a un but, il y a un objectif. Dieu ne se révèle pas uniquement parce que ça lui plaît, mais parce qu'il a un projet pour l'homme et qu'il l'intègre dans un projet de salut. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu les termes. Voilà, c'est notre grand 1, terminologie de la révélation. Et qu'on regarde d'abord le terme révélation, de manière à entrer comme ça, petit à petit, dans l'objet de cette révélation. Commençons par les mots. Le latin de révélation, et vous avez sûrement fait du latin, vient du verbe révélare, donc révélatio. Et donc l'histoire du langage et l'histoire des termes, lorsqu'ils sont devenus chrétiens, eh bien il y a un passage, et le passage il n'est pas venu directement du terme au latin, parce que le terme de révélation au départ c'était un terme grec, c'était apocalypsis, c'était apocalypse. Et on connaît l'Apocalypse avec l'Apocalypse de Jean. Eh bien, Apocalypse, c'est apokalypsis en grec, et cela veut dire révélation, Apocalypse. Donc, ce terme-là, apokalypsis en grec, est devenu avec le temps révélatio, parce qu'il a fallu, ça a été le travail des premiers pères de l'Église, il a fallu épurer en quelque sorte le terme de sa consonance grecque, mais pas tellement dans sa consonance grecque, mais dans son ambiguïté grecque, parce que derrière le mot grec, le latin ne met pas vraiment la même chose. Donc, pour christianiser les termes, eh bien, on doit ça à Tertullien, au second siècle, qui était un père de l'Église. Eh bien, c'est le terme de révélation, qui est devenu révélation, qui a été choisi, et non pas le terme apocalypsis. Donc ça, bon, vous pouvez le noter pour vous-même, mais voilà, c'est pas déterminant. Mais vous voyez, c'est bien de connaître la signification des termes, quoi. Les fleurs viennent, les mots sont souvent du latin. Bon, les médicaments ou les maladies, c'est souvent du grec. Alors, c'est comme ça, il y a une étymologie, il y a une origine, et c'est toujours intéressant de savoir l'origine des mots que nous utilisons, y compris peut-être plus spécialement en théologie. Donc, il y a une utilisation commune de ce terme de révélation, parce que ce mot-là, eh bien, on l'utilise aussi, pas quotidiennement, ça nous vient, on ne se lève pas le matin en parlant de révélation, mais vous voyez bien que ce terme-là, il fait partie de notre vocabulaire. Parce qu'il y a quand même l'idée, dans une révélation, de quelque chose qui existait, qui était présent, mais que l'on ne connaissait pas, et à un moment donné, c'est venu à notre connaissance. Vous voyez cela ?
C'est un dévoilement.
C'est un dévoilement, c'est exactement le terme qu'il faut employer. Un dévoilement. C'est pas parce que ça nous apparaît à nous, là on est plusieurs, il y a des choses peut-être qui ont été logiques pour nous à un moment donné et qui ont été logiques pour quelqu'un d'autre il y a longtemps ou qui le sera pour d'autres après. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a pu dire « Ah mais alors ça, je l'ai vraiment compris, c'était une révélation pour moi ». Mais c'est pas parce que je l'ai compris à ce moment-là que ça n'existait pas avant. C'est juste que mon intelligence, mon ouverture, ma conscience n'a pas été en capacité, parce que c'est pas une question d'intelligence, mais c'est parce qu'on était fermé à ce moment-là et qu'on l'a pas compris. Donc il y a cette idée-là. Alors, c'est pas tout à fait la même chose s'agissant de la révélation de Dieu, mais vous voyez bien, ça agit un peu comme ça. Ben Dieu existait. Avant qu'il se fasse connaître, il était. L'esprit soufflait au-dessus des eaux dès avant la création. Donc il y a une préexistence quand même de Dieu et même du Fils, voilà, jusqu'au moment où il décide de se révéler. Alors il y a du mystère, mais ce n'est pas mystérieux. Parce que pour nous, le mystère, c'est pas qu'il soit qu'à un moment donné Dieu ait été caché ou voilé, parce qu'en fait, Dieu n'est jamais caché, il est voilé, pour reprendre votre terme de dévoilement, il est voilé, mais c'est qu'à un moment donné, il décide de se faire connaître. Et c'est cette décision qui est un mystère pour nous. Parce qu'on ne pourra jamais, même en théologie, même avec... on ne saura jamais pourquoi, à un moment donné, Dieu décide de se faire connaître. C'est la volonté de Dieu qui est un mystère, c'est pas sa révélation. Parce qu'en fait, il ne dit pas autre chose que ce qu'il est. Et on peut prendre l'exemple de Exode 3,14, quand Dieu dit « Je suis qui je suis » ou « Je suis qui je serai ». Ça veut dire que là, dans Exode, Dieu révèle son identité. Il le dit, il dit qui il est. « Je suis », c'est le verbe « être ». Donc « il est ». Dans une existence profonde, fondamentale, fondatrice. Est-ce que ça va ? Ça va ? Donc on va passer du mystère au révélé, ou au dévoilement. Alors il y a un théologien qui s'appelle Hans-Urs von Balthasar, qui a particulièrement... travailler en théologie cette notion de dévoilement. Et on retrouve ça dans l'Évangile. Dans l'Évangile, même Jésus, dans son enseignement, il va parler en parabole. Ben, la parabole, qu'est-ce que c'est sinon un enseignement qui est un peu voilé? Mais pour se faire comprendre, on va utiliser des exemples connus. L'agriculture, des choses que l'on connaît. Souvenez-vous, Jésus dit « à la foule ». Je fais cet enseignement, mais à vous, il va interpréter la parabole. Donc Jésus se fait le pédagogue pour ses disciples particulièrement. Il va dévoiler la signification de la parabole. Mais si je reviens à cette idée de mystère, qui est la volonté de Dieu, qu'on n'arrivera pas à percer, sa décision que l'on ne comprendra pas, enfin, qu'on ne pourra pas percer vraiment la volonté de cette décision, il y a le psaume 8, le verset 4. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, que tu en prennes souci ?» C'est ça la question qui nous habite finalement. Qu'est-ce qu'on est pour que toi, Seigneur, tu te révèles à nous ou tu meurs sur la croix pour nous ? Qu'est-ce qu'on est au fond ? Donc, ça veut dire que la révélation de Dieu en acte, en parole, au milieu du tremblement de terre, dans le buisson ardent, en s'incarnant, ça veut dire que sa révélation, elle est objective. C'est-à-dire qu'elle est, j'allais dire, réelle. Et vous voyez bien, si je dis qu'elle est réelle, ben, quelqu'un qui ne croit pas, va me dire, mais non, mais pour moi, la révélation de Dieu, ça n'a pas de signification. Vous voyez ? Mais C'est toujours, c'est pour ça que je vous disais en début, en théologie, la foi, elle est requise, quel que soit l'endroit où on en est avec les questions qui sont les nôtres. Ça veut dire que si je dis que pour moi, la révélation, elle est objective, c'est parce que je crois que Dieu s'est manifesté. Et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Vous voyez ? Donc si je dis, si on me dit, et ça a été le cas il y a 15 jours, mais toujours par provocation, c'est toujours comme ça quand on pose une question, est-ce que Dieu existe ? Hein ? Voilà, on m'a dit ça. Eh bien, j'ai dit, ben, Dieu existe pour celui ou celle qui croit. Parce que bien entendu, pour celle ou celui qui croit, ben, l'existence de Dieu, elle est objective, parce que dans notre foi, on peut relire des moments où Dieu est intervenu dans notre vie, où il y a eu des signes, où on s'est dit, ben, oh, c'est toi Seigneur. Mais pour celui qui ne croit pas, eh ben, ça n'a aucune signification, et de fait, Dieu n'existe pas pour lui. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Ça veut dire aussi que va coexister deux dimensions. La dimension objective pour celui ou celle qui croit, oui c'est objectif, je crois en Dieu parce que je crois qu'il s'est révélé à Abraham et jusque sur la croix, jusqu'à la résurrection, mais en même temps il y a une dimension subjective parce que celui qui ne croit pas, ben pour lui c'est tout à fait subjectif quand je lui dis que moi je crois. Oui, ben, ok, tu crois, moi je ne crois pas, ben, ta croyance elle est subjective pour moi. Est-ce que ça va ?
Ça dépend, parce que comment dire, il y a encore un autre degré, c'est le fait qu'il se manifeste à certaines personnes et pas à d'autres.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, Dieu se manifeste à certaines personnes et pas à d'autres.
Il y a des mais... qui peuvent, ils choisissent de comprendre, oui. Qui veulent comprendre, mais il y en a certains pour qui c'est
oui. Un sans coup de sens. Oui, alors ça c'est tout le mystère de la foi aussi, parce qu'on peut se dire pourquoi certaines personnes ont la foi et pas d'autres.
C'est une question de
grâce, je pense que la grâce, elle est pour tous. Et elle est pour tout le monde. Après, moi, ça n'engage que moi, cette explication-là. Voilà, je ne me pose pas en théologienne en vous disant ça. Mais je pense qu'il y a parfois en nous des... On est en capacité d'ouverture et parfois on est fermé. Je pense que la foi, c'est comment on est capable d'accueillir une parole de foi ou pas.
Je suis d'accord, mais là, vous disiez à vous, il s'adressait à certaines personnes, quand même. Il y a quand même certaines personnes qui
oui.
Sont...
Mais ça, c'est une...
ciblées, on va dire.
Oui, c'est ça. Mais je vous disais, Abraham, peut-être avait-il l'intuition que Dieu était unique et non pas, et qu'il n'y avait pas plusieurs dieux. Et que de vouer un culte à la lune, c'est peut-être que pour lui, Abraham, ça n'avait pas vraiment de... Voilà. Comme un enfant va remettre en cause, va mettre en question les traditions des grands-parents ou des parents. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Après oui, ça reste un mystère. Pourquoi certains croient et pas d'autres
C'est pareil pour les miracles.
Alors les miracles...
Il y en a qui diront c'est pas vrai, et d'autres qui diront c'est la preuve.
Alors là, après, on entre dans une autre dimension, c'est-à-dire dans la véracité, dans la preuve. Il y a la preuve scientifique, la preuve scientifique de l'existence de Dieu, ben ça non quoi, enfin on peut l'attendre, c'est pas ça n'a pas lieu d'être, parce que ça n'a pas, c'est pas, l'existence de Dieu ne se prouve pas mathématiquement. On voit bien quels sont les ressorts qui font que l'on croit ou que l'on ne croit pas. La manière de croire, je ne sais pas si on peut dire le fait de croire, mais notre capacité à aller vers le croire, par exemple, ben c'est souvent lié là où on est né, notre milieu familial, notre milieu social. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Comment la foi nous a été transmise ou pas. Comment on a pu observer la foi de nos parents ou de nos grands-parents? Qu'est-ce qu'ils ont montré de leur foi? Vous voyez, il y a plein de paramètres en fait qui fait qu'à un moment donné, soit on reste dans la foi, soit on part, soit on n'est pas d'accord. Voilà. Mais là, en fait, moi, je me situe au niveau de la foi. Vous voyez, je ne me situe pas au niveau de l'Église. Voilà. Parce que là, l'Église, pour moi, la foi en l'Église, c'est la foi en l'Église du Christ. Pour moi, c'est très clair. Hein, ce n'est pas trop le thème de notre cours là, mais c'est plutôt ça. Après, dans la dimension subjective, pour ceux qui croient, il y a une dimension objective, mais il y a aussi une dimension subjective pour les personnes qui croient. Parce que je ne crois pas comme vous-même vous croyez. Parce que ben, votre foi, ce n'est pas la même que la mienne, elle ne se dit pas avec les mêmes mots. Peut-être que c'est une foi tardive, moi j'ai été baptisée, j'étais bébé. Vous voyez, il y a tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas une foi qui se poserait comme la norme de la foi de tout le monde. Ça veut dire que notre foi nous appartient en propre, c'est la foi en Christ, elle nous appartient parce que les mots de notre foi nous appartiennent et ils sont subjectifs pour l'autre. Donc ça, c'est vraiment une originalité aussi, un paradoxe, le fait qu'il y ait de l'objectif et du subjectif, y compris dans la révélation. C'est comme ça. Ça va ? Alors ensuite, le terme de manifestation. Alors, le terme de manifestation nous oblige, là encore, à prendre en compte une double articulation. Par exemple, si on prend le verbe « manifester ». Alors, on peut prendre dans le dictionnaire « manifester ». Qu'est-ce qu'on lira ? Ben, « manifester », c'est « faire connaître ». Ou alors c'est faire voir. Ou alors faire connaître en faisant voir. Vous voyez, c'est possible aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une vision. Il y a quelque chose que l'on voit. Alors s'il y a quelque chose que l'on voit, ben, ça nous ramène un peu dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand on parle de théophanie, une manière dont Dieu se manifeste. Donc pour certains prophètes, par des visions. Mais si je dis... se manifester, là c'est un petit peu différent, parce que se manifester c'est se faire connaître, ça veut dire, vous voyez bien, il y a déjà la décision, il y a un élan, il y a un mouvement, se faire connaître et se montrer, ce n'est plus se faire, c'est plus faire voir, c'est se montrer, décider de se montrer. Et s'il y a du se montrer, c'est qu'il n'y a plus une vision seulement, mais il y a une apparition, un apparaître. Et c'est un apparaître de soi-même. C'est pas se révéler soi-même comme dans l'Ancien Testament, mais c'est se montrer de soi-même. Et là, on pense à Jésus, au Verbe fait chair. Jean nous dit, et il a habité parmi nous. Dieu s'est montré en personne. Dans l'Ancien Testament, il n'a pas révélé autre chose que lui-même. Et dans le Nouveau Testament, il s'est révélé lui-même en personne, en la personne du Fils. Et pourtant, si vous regardez dans l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, ce terme-là de manifester n'y est pas. On ne le trouve pas. En revanche, on va trouver l'expérience de ceux qui ont vécu, et qui ont vécu l'expérience de Dieu qui s'est révélé à eux, comme les prophètes. Et qui ont fait l'expérience de l'audition, par exemple. Ça, c'est Abraham. Avant d'être Abraham, hein, c'est notre texte de Genèse 12, chapitre 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, et va vers le pays que je te ferai voir. Donc là, il entend Abraham. Et puis ensuite, plus loin, vous voyez, une fois que Dieu s'est adressé à Abraham, et qu'Abraham a répondu, changement de nom. Abraham devient Abraham, un peu comme Paul. Hein, au début, c'était Saul et ensuite, il devient Paul. Genèse 18, 1, 2. Là, c'est par la vision. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. Donc là, on nous dit que le Seigneur apparut à Abraham, sauf qu'Abraham voit trois hommes. Donc là, on est dans l'ordre de la médiation. Il ne voit pas Dieu en face à face. Moïse, peut-être, lorsqu'il descend. Et encore, son visage resplendit parce qu'il a vu Dieu en face. Mais donc, là, on a encore quelque chose qui est de l'ordre du voilé dans ces trois hommes qui se tiennent près de lui, debout. On a un autre exemple avec Moïse, justement. Exode 3, 1, 2. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Donc voilà des manifestations par la vision, par l'audition. Alors pourquoi ces théophanies sont-elles différentes pour l'un et pour l'autre ? Bien parce que les théophanies vont légitimer une fonction. Elles ont une fonction, ce n'est pas gratuit quand elles se produisent pour les hommes de l'époque. Par exemple, pour Abraham, eh bien, ce sera la justification de la foi. On dit qu'Abraham, c'est le père dans la foi. Ben oui, Abraham, il va falloir qu'il justifie de sa foi en ce Dieu unique. Et on sait, on va voir par où ça va passer. Et puis pour Moïse, la fonction, ça va être la mission. Parce que Moïse, il aura la mission de conduire le peuple. De la main des Égyptiens et puis de traverser le désert avec lui et de l'amener jusqu'au pied de la terre promise. Bon, Moïse ne connaîtra pas la terre promise, il meurt avant et c'est Josué qui emmène le peuple et qui traverse comme ça jusqu'à Jéricho et c'est voilà. Donc on voit bien que les théophanies, elles attribuent une fonction à celui à qui la théophanie est adressée. Donc, pour Abraham, il s'agit d'un départ et d'un changement d'identité. Et pour Moïse, c'est un peu différent. Il ne s'agit pas d'un départ, il s'agit d'un retour. Ben Moïse, il avait grandi dans le palais de Pharaon. Et ben, le retour, c'est il revient à son peuple. Il revient à ses origines. Ce n'est pas un départ pour Abraham. Pour Moïse, c'est un départ pour Abraham, mais pour Moïse, c'est un retour. Un retour à ses origines. Et ce retour, c'est un changement d'existence. Il vivait dans le palais de Pharaon. Ben voilà qu'il vit dans le désert. Puis il n'a rien. Donc vous voyez, là, lorsque Dieu se fait connaître à Abraham ou à Moïse ou aux prophètes, Il y a une fonction bien déterminée pour chacun. Il y a un objectif. Ils ont chacun une mission bien particulière. Bon, après ça, je vous l'ai dit, il s'agissait de dire que Dieu se révèle lui-même dans une économie. Ça, je pense que vous l'avez. Je pense que c'est mon point après, mais j'y reviendrai. Je vais juste vous lire le texte de la Constitution dogmatique. C'est le paragraphe 6 du chapitre 1. Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester et se communiquer lui-même, ainsi que manifester et communiquer les décrets éternels de sa volonté concernant le salut des hommes, à savoir de leur donner part au bien divin qui dépasse toute pénétration humaine de l'esprit. Donc vous voyez, ça dépasse vraiment tout ce que l'esprit humain peut comprendre de cette révélation. Alors, on en arrive à notre point 1.3, qui est le terme d'économie. Mais bon, je voulais déjà un petit peu expliquer, donc pour avancer un petit peu.
Excusez-moi.
Oui.
Je comprends pas.
Dites-moi.
Le salut des hommes, je comprends pas.
Alors, si on dit que Pourquoi Dieu veut-il se révéler ? Dieu veut se révéler parce qu'il a un projet pour les hommes qu'il a créés. Et le projet, c'est peut-être de les sauver d'eux-mêmes. On pourrait dire ça d'une certaine façon. Parce que quand on regarde l'histoire prophétique, on voit bien que, ou même lorsque le peuple s'installe dans le pays que, dans la terre promise, hein, que nous connaissons, va vers le pays que je te montrerai, il part de Ur pour s'installer en Canaan, la terre, elle est déjà habitée. Et on voit bien que les 12 tribus d'Israël s'installent avec un chef à leur tête, mais que ces tribus, à un moment donné, vont vouloir prendre un territoire, vont vouloir prendre le territoire de l'autre, alors que ce sont les tribus d'Israël. Donc ça veut dire qu'il y a, dans la volonté de sauver l'homme, peut-être déjà de le sauver de lui-même, de cette propension que l'homme a de vouloir, peut-être contre son ambition, contre son orgueil, voilà. Et on voit bien que toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est aussi une histoire où le peuple va récriminer contre Dieu. Il a faim, il a froid, il est pauvre, voilà, c'est ça. Et donc, il veut un roi comme les autres, ils habitent le pays, il y a des rois, ils veulent, eux aussi ils veulent un roi, ils veulent être comme les autres. Donc ça veut dire que la promesse, parce que c'est ça au départ, Abraham, c'est une promesse, je te promets une terre et je te promets une descendance. Et donc cette terre et cette descendance, elles représentent le salut de l'homme. Alors ce salut, il évoluera dans l'histoire de la révélation. Il évoluera lorsque le Fils de Dieu meurt, crucifié en croix, et qu'il est ressuscité. Bien, on pourrait se dire, mais c'est quoi est-ce que le salut dans le Nouveau Testament, c'est le salut promis comme dans l'Ancien Testament? Le salut de l'homme dans le Nouveau Testament, c'est comment Jésus, par sa mort, vient anéantir la mort elle-même. Mais Jésus ne nous promet pas que nous ne mourrons pas. Bon, ça, je vous apprends rien. On meurt. Mais la mort n'est plus un néant, n'est plus un anéantissement. Et c'est tout cela, c'est-à-dire le salut que Dieu promet en se révélant, il englobe à la fois la promesse que Dieu sera fidèle, quoi qu'il arrive. Et l'Ancien Testament montre bien, si vous lisez l'Ancien Testament, ce ne sont que d'histoires de guerre, de batailles, de conflits, voilà. Y compris d'adultère, enfin, je veux dire... C'est pas pour rien que nos grands-mères ne lisaient pas la Bible. Il n'y avait pas les Bibles autour de nos grands-mères. Hein. C'est même dans les congrégations, hein, l'Ancien Testament, c'était pas voilà. Mais on voit bien que l'histoire de la révélation, c'est l'histoire d'un projet que Dieu a pour l'homme de le sauver, y compris en dépit de lui-même. Donc ça veut dire tout le cheminement de conversion. Vous voyez, ce matin, on parlait du libre arbitre chez Adam, parce que contre les protestants, au temps du Concile de Trente, hein, on est au XVIe siècle, hein, c'est pas maintenant, c'était de dire qu'il y a du libre arbitre en Adam, alors que Luther pensait qu'il n'y avait pas de libre arbitre dans Adam. Eh bien, l'originalité de la foi chrétienne, c'est de dire, ben oui. C'est parce que Dieu a créé l'homme avec la capacité de choisir le bien ou le mal. Et ça, c'est très fondateur. Ça veut dire qu'il a créé l'homme en ayant une conscience. Alors la conscience peut être erronée, hein, comme en morale. Hein, mais en conscience, il peut choisir d'aller vers le bien ou d'aller vers le mal. Et s'il va vers le mal, eh bien... L'Église catholique dit, c'est pas. Et puis le Concile de Trente, les pères conciliaires à Trente ont dit, mais c'est parce que le bien, le libre arbitre chez Adam, il était amoindri. Il était amoindri. Donc il s'est laissé tenter. Il était amoindri. Mais c'est mieux de se dire, il y a du libre arbitre en nous et que parfois notre discernement est altéré et on ne va pas choisir le bon chemin. Mais c'est quand même rassurant de dire, si on n'a pas choisi le bon chemin, c'est pas bien, mais en tout cas, l'homme est libre. On n'est pas des pantins, voilà. Et ça c'est quelque chose de très très fondateur. Ça veut dire que l'homme est sauvé, mais qu'on ne sera pas sauvé en dépit de nous-mêmes. Celui qui ne croit pas et celui pour qui le salut de l'homme ne représente rien, parce que ça ne dit rien, voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Hein. Je suis pas Dieu. Hein. Mais globalement, l'interprétation, elle est là en fait. Je veux dire, ça engage que moi. On est toujours sauvé, parfois en dépit de nous-mêmes. Quelle est l'ouverture que nous consentons pour pouvoir être en état de changer ou de prendre le mauvais chemin. Est-ce que ça répond à votre question sur le salut de l'homme ? Oui. Après, c'est vrai que dire le salut de l'homme, c'est vrai que... Mais vous avez raison de pointer ça, parce que c'est quelque chose en théologie, on parle du salut de l'homme. Voilà. Et comme si c'était un concept. C'est ça. Oui, c'est ça. Comme si c'était un concept, le salut de l'homme. Ben oui, mais enfin, le salut de l'homme, d'accord, mais de l'homme et de l'homme qui ne veut pas être sauvé, est-ce qu'on va... Voilà. Mais il y a ça aussi en théologie, c'est qu'on va, à un moment donné, on conceptualise, en fait. Donc, voilà. Mais vous avez raison de pointer, parce que ça peut être des travers. On va parler du peuple de Dieu, voilà. Peuple de Dieu, bah oui, mais le peuple de Dieu, ceux qui ne croient pas, c'est pas... Il faut expliquer le peuple de Dieu.
Moi, ça n'apparaît pas.
Comment ?
Moi, ça n'apparaît pas.
C'est vrai. Ouais. Alors, dites. Donc, notre point 2, au commencement de la manifestation, justement, la création. Parce que l'initiative de la révélation de Dieu, eh bien, elle commence avec la création. C'est déjà une de ses volontés. Parce que la création, c'est l'œuvre de Dieu, et l'homme, on pourrait dire que l'homme est la cause de Dieu. Et lorsque Dieu se révèle par sa création, par sa parole, ou par l'audition, ou par la vision, eh bien on peut dire que l'homme, une fois qu'il a accueilli la révélation, il n'est plus enfermé dans sa dimension horizontale, terre à terre. C'est-à-dire on pourrait dire, alors c'est pas forcément savant de dire ça, mais vous pouvez le noter, c'est-à-dire qu'en se manifestant, en se révélant, Dieu va créer dans le monde, va faire entrer dans le monde une cause transcendante. Alors ça paraît un peu savant comme ça, mais finalement vous allez voir, c'est pas si savant que ça. Il fait entrer dans le monde une cause transcendante. Cela veut dire qu'il va permettre à l'homme, grâce à sa révélation dans le monde, d'atteindre ou d'aller vers Dieu d'une manière que l'homme n'avait pas prévu, mais comment vous dire ça un peu clairement, comme si Dieu lui permettait d'aller vers lui en le rendant capable par cette cause transcendante. C'est-à-dire au lieu d'être terre à terre, dans sa dimension horizontale, eh bien la cause transcendante dans le monde va lui permettre de découvrir une voie verticale, c'est-à-dire une voie spirituelle, une dimension de lui-même qui n'est plus une dimension uniquement horizontale. Une capacité comme si Dieu mettait en nous, lorsqu'il crée la création et les hommes, une capacité en l'homme, et en toute femme bien sûr, c'est avec un grand H, cette capacité de s'élever verticalement, de s'élever vers une dimension qui est spirituelle. Enfin, la dimension du sacré en l'homme, elle est anthropologique. tout homme, depuis les temps les plus reculés, ont eu besoin de comprendre le ciel, les astres, la croyance en des dieux, même le soleil, la lune, etc. Ce n'est pas croire en la lune ou vouer un culte à la lune, c'est pas ridicule, ça nous dit, il faut voir ce que cela dit de la dimension du sacré en l'homme. Voilà, un besoin de s'élever vers au plus haut que sa propre condition humaine. Voilà. Alors, on peut aborder le caractère soudain de la révélation. C'est le point 2-3. Parce que Dieu se révèle soudainement. Il n'y a pas une progression, il n'y a pas des éléments avant-coureurs.
À quel moment ?
Au moment où il se manifeste à Abraham, c'est d'un coup. Il n'a pas donné des signes. Même si les théophanies ou les manifestations cosmologiques existent, il n'empêche qu'elles sont soudaines. Il n'y a pas... Il n'y a pas quelque chose qui va annoncer cela. Et cette soudaineté-là, ça fait partie de la volonté de Dieu. C'est soudain.
C'est la conversion de Paul.
Elle est brutale, radicale, soudaine.
Et d'une violence inouïe.
Exactement. Ouais.
Oui, mais Abraham, il les a reçus comme des amis.
Oui, sauf que...
Très bouleversé, c'est comme s'il les attendait. Enfin,
oui, c'est vrai, mais ce qui se joue avec Abraham, c'est la mise à l'épreuve d'Abraham, et on va le voir tout à l'heure. C'est la foi qu'Abraham a en Dieu qui s'est révélée à lui. Elle est là, la soudaineté, elle est là, la violence. C'est le couteau qui est prêt à sacrifier son fils. Ça, c'est soudain, ça, c'est violent.
Le chêne de Montréal, c'est soudain et violent.
C'est soudain, Sarah, hein. Oui, pour Sarah, oui.
Beaucoup plus que pour Abraham.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Mais on parle de manifestation ou de création ? Parce que la création, elle ne s'est pas faite soudainement.
On parle de manifestation. Oui, bien sûr, c'est pas la création. On a le récit de la création en 7 jours. Oui. 6 jours et le 7e, Dieu se repose. Non, là, on parle vraiment de la manifestation de Dieu. Elle est soudaine. Lorsque Moïse fait paître le troupeau, il est parti faire paître le troupeau et le buisson se consume, c'est soudain quand même. Enfin, ça attire son attention.
Et tous les hommes d'avant alors ?
Hop, je reprends.
Excusez-moi, c'est aussi une peur.
À la radicalité de la nouveauté de la révélation. Parce que la révélation, c'est non seulement nouveau, mais c'est radical et c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est inédit parce que dans cette nouveauté, l'homme va être celui qui est destiné, il va être le destinataire de cette nouveauté. Ça va le concerner directement. Et donc il va faire l'expérience, c'est notre point 2-4, il va faire l'expérience de Dieu. C'est quand même pas rien de faire cette expérience-là. Il va faire l'expérience de la possibilité d'une relation nouvelle. Et on parlait tout à l'heure de causes transcendantes dans le monde. Il va faire l'expérience d'une relation transcendante au cœur même de son humanité. Quelque chose qui va être de son humanité et même de son histoire, parce que ça va changer le cours de son histoire. Et en s'auto-communiquant, parce que Dieu se communique lui-même, Dieu offre à l'homme la possibilité de le connaître de l'intérieur, et plus seulement par l'extérieur de la création. De l'intérieur, l'homme va pouvoir prier Dieu, s'adresser à lui, le connaître de l'intérieur. Le théologien jésuite Christophe Théobald, qui est anciennement au Centre Sèvres, mais là à l'Institut Loyola, rue de Sèvres, dit que Dieu n'a qu'une seule chose à nous dire. Un seul mystère à révéler aux croyants, c'est lui-même et lui-même comme destinée. Dieu, c'est la destinée de l'homme. Voilà, et d'où le salut exactement. Dieu n'a qu'une seule chose à nous dire et un seul mystère à révéler aux croyants, c'est lui-même et lui-même comme destinée. Nous sommes destinés à être sauvés. Et sauvés de l'anéantissement de la mort, déjà. Donc la manifestation de Dieu, c'est avant tout la manifestation d'un Dieu qui aime. Voilà, on n'a pas encore parlé d'amour, alors qu'en fait, il n'y a que ça. D'un Dieu qui aime et dont le projet pour l'homme est un projet d'amour et de salut. Parce qu'on pourrait aussi se dire, ben, pourquoi veut-il sauver l'homme ? Ben, parce qu'il l'aime. Voilà. La cause de Dieu, c'est l'homme. Seulement tout cela, c'est compris a posteriori, c'est-à-dire c'est pas compris tout de suite. Parfois, il faut relire l'histoire pour le comprendre. C'est une connaissance a posteriori, nous dit Karl Rahner. C'est notre texte 4. Karl Rahner, donc théologien jésuite, qui est né en 1904 et qui est mort en 1987, je crois. Il est mort un an avant Balthazar, je crois, 87. Voilà ce que nous dit Karl Rahner. Ce que nous nommons connaissance ou expérience transcendantale de Dieu est certes une connaissance a posteriori, dans la mesure où l'expérience transcendantale que fait l'homme n'advient toujours que dans la rencontre du monde et avant tout du monde relationnel. Notre connaissance ou expérience transcendantale doit donc, à ce compte, être nommée a posteriori, pour autant que toute expérience transcendantale est médiatisée, dès l'abord par une rencontre avec les réalités concrètes de notre monde ambiant et relationnel. Bon, Karl Rahner, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. C'est pas grave, c'est un peu compliqué. Bon, là, il nous dit a posteriori, déjà, c'est pas a priori, donc c'est toujours dans une relecture, c'est toujours par rapport au monde dans lequel nous existons, c'est toujours en relation avec l'autre, parce que Dieu, lorsqu'il se fait connaître, il se met en relation avec nous. Donc il nous dévoile quelque chose de la relation telle qu'elle doit être. Si Dieu dit « je suis qui je suis », il dit « je », donc s'il dit « je », c'est que forcément il s'adresse à un « tu ». Il s'adresse à l'autre. Et donc, il nous montre la voie de la relation, la voie de l'autre. Donc, Karl Rahner, il nous dit tout simplement, bah, toute expérience transcendantale, elle est médiatisée. Ben oui, parce qu'on ne va pas vers Dieu tout seul. Voilà. Jésus-Christ, fils de Dieu, le Verbe incarné, c'est le médiateur du Père. Et Jésus dit bien dans l'Évangile de Jean, nul ne va vers le Père sans passer par moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la porte, je suis le pasteur. Le je suis dans l'évangile de Jean, il fait écho à Exode 3.14 dans le je suis qui je suis. Et donc l'Écriture va témoigner de cette rencontre-là. L'Ancien et le Nouveau Testament témoignent de l'expérience que les hommes ont faite de leur rencontre avec Dieu dans l'Ancien Testament et dans la rencontre avec le Fils en personne dans le Nouveau Testament. Ces deux moments font partie d'une unique révélation. on ne sépare pas. Ça veut dire qu'il y a...
Est-ce que vous pourriez juste relire la différence entre...
Aujourd'hui, on pourrait dire que la révélation, même si elle est close avec la mort et la résurrection de Jésus, en revanche, elle agit toujours pour celle ou celui, croyant ou pas, qui ouvre le livre et qui peut être touché, bouleversé, et qui peut être découvrir, qui peut entrer en relation avec ce qu'il lit. Ça veut dire que la révélation, même si elle est close, par l'action de l'Esprit-Saint reçu à la Pentecôte et par notre baptême, agit, continue d'agir dans le monde. Voilà. Donc la dimension objective, je vous en ai parlé. Il est 3h15. Il nous reste un tout petit peu de temps. Et puis le temps qui reste, je vais mettre en route mon ordi, en espérant que ça marche. Voilà, parce que ce serait bien qu'on reste sur le... Voilà, c'était le point 3.1, les actes de Dieu dans l'histoire. Je vais reprendre l'idée de la dimension objective, mais en même temps, je vous en ai dit déjà pas mal tout au début, sur la dimension objective de la révélation et la dimension subjective. Ce que je pourrais rajouter, que je ne vous ai pas dit, c'est le caractère divin de la révélation. Parce que le caractère divin de la révélation va impliquer pour celle ou celui qui reçoit la révélation d'en être convaincu. Vous voyez, on est dans une démarche de conviction. Quand on dit « je crois », c'est qu'on est convaincu par l'objet de notre croyance. Et que c'est une conviction objective. Je suis en train de... Voilà. Mais il ne s'agit pas seulement d'une conviction personnelle, mais d'une adhésion personnelle et communautaire. Parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà, je vous mets le tableau. J'espère que ça va marcher. Ah oui. Je sais pourquoi ça ne marche pas. Parce que ça, ça s'éteint. Donc il faut rappeler là.
Réveiller.
Il faut le réveiller. Voilà, c'est bleu, ça devrait se réveiller. Bon, pendant que l'appareil se met en marche, je continue de vous parler. La dimension objective de la révélation de Dieu est une révélation bouleversante. Alors, je vais faire ça. Alors. Je prends mes petits papiers. Je me pousse. Est-ce que tout le monde le voit ? Alors, vous pouvez vraiment... votre regard, normalement, sur un tableau, ça fait plusieurs points, donc... passer d'un personnage à l'autre. Et puis après, vous pouvez exprimer ce que vous voyez, ce qui vous surprend ou pas.
Justement, pourquoi il s'arrête ? Par quoi il est arrêté finalement ?
Alors, voilà. Donc on a trois personnages. L'ange, Abraham et Isaac. Déjà, on peut voir, il y a déjà une diagonale, une transversale, ouais, une diagonale. Donc, déjà, ça, c'est un élément important dans la réalisation d'une peinture. La géométrie dans une œuvre d'art, elle donne l'harmonie. du tableau. Et puis après, on peut dire qu'on a une autre, on a deux autres diagonales. On a les mains parallèles au corps d'Isaac. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre ? Allez-y, hein, vraiment. Comment ?
Toute la lumière est sur Isaac.
Toute la lumière est sur Isaac, c'est vrai, vous avez raison. Et sur le corps d'Isaac, son visage, on ne le voit pas.
Il est caché.
Il est caché. Oui, et c'est presque...
Il ne le voit pas, enfin,
non, c'est vrai.
C'est terrible ce qui se passe.
C'est terrible ce qui se passe, mais vous avez raison, parce que on pourrait interpréter de deux façons. Peut-être pas de deux façons. Il y a la violence, la fermeté avec laquelle le visage est maintenu. Et en plus, c'est comme si Abraham ne voulait pas qu'Isaac voie son père, parce que c'est une vision horrible, affreuse, terrifiante.
C'est-à-dire qu'Isaac ne veut pas voir son père, mais son père, pour le tuer, ne veut pas voir le visage d'Isaac.
Oui, peut-être. Exactement, vous avez raison, mais c'est tout à fait juste. Oui, ouais. Et on a l'impression qu'Abraham est surpris par le... D'ailleurs, il est surpris puisqu'il lâche le couteau par l'ange. Hein, dites-moi.
Le couteau est en plein vol.
Voilà.
C'est la soudaineté du...
Oui.
Et moi, je trouve que l'ange est très, très expressif.
Oui.
Moi, je l'entends parler. Ça va pas, toi ?
Oui, c'est ça. Et presque la main, comme si, vous savez, on a... Enfin. Oui, c'est ça. Et l'ange est très beau. Il y a quelque chose de très féminin dans l'ange. On a l'impression d'assister en direct à la scène. Le fait que le couteau soit en train de tomber. C'est comme si on était là et on assistait à la scène.
Mais si c'est pas un vrai ange, enfin un ange... Quel phénomène, comme vous disiez au début, cosmologie. Voilà.
Là,
a pu se produire. Moi, j'ai du mal à croire que ça soit un ange comme ça sous cette forme. L'histoire d'Abraham, j'y crois, mais
oui.
Je veux dire, quel phénomène il se serait produit.
Mais ça, c'est l'interprétation que Rembrandt fait à partir de l'écriture.
Oui, mais quel phénomène se serait produit si c'était pas et qui serait mystérieux, mais qui n'aurait probablement pas été sous la forme d'un ange, un phénomène naturel, quelque chose.
Oui, sauf que là, c'est le texte. C'est le texte de l'écriture.
Oui, c'est là. Mais l'ange, ça veut forcément dire autre chose. Mais c'est Dieu.
Non, l'ange.
L'ange, c'est le. Pas cette forme-là.
Non. Sauf que Rembrandt, il est comme nous, il ne sait pas. Est-ce que les anges ont des ailes ? Je ne sais pas.
Est-ce que Abraham est un personnage historique ? Est-ce,
ouais.
Est-ce que c'est un fait historique ?
Je pense.
Mais vous voyez bien le déplacement que ça nous oblige à faire entre la réalité de quelque chose et ce que ce quelque chose nous donne à penser. Où est-ce que, dans quelle dimension, dans quel espace, dans quel lieu ça doit nous mener, en fait ? Au-delà de « est-ce que ça s'est passé comme ça ?» Parce que l'écriture, ce n'est pas un reportage. On n'est pas dans des faits journalistiques.
Peut-être qu'il y a quand même eu des choses qui sont vraiment produites, certainement.
Des sacrifices.
Mais ça, je ne peux pas... Mais oui, ça, vous avez raison. C'est sûrement lié au sacrifice humain. Abraham, il n'est pas choqué de faire ça, parce que des sacrifices humains, à l'époque, c'était... Il connaissait, ça se faisait. C'est pas quelque chose... Quand la voix lui dit de sacrifier son fils, il n'est pas surpris de cela.
Il comprend que la voix lui dit ça.
Oui. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est lire le texte. Alors, vous allez regarder le tableau et je lis le texte. Or, après ces événements... Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Il reprit « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens, Demeurez ici, vous, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bûches pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, » dit-il, et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches, où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Il reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur voit ». Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que le Seigneur est vu. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable de la mer, au bord de la mer. » Voilà. Donc, vous voyez, Rembrandt, il n'a pas fait autre chose que d'interpréter et de réaliser son tableau à partir de l'écriture elle-même.
Sauf qu'il n'a pas montré le bélier, c'est peut-être ça ce qui s'est produit.
Mais parce que le bélier, à la limite, on va dire, c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel de l'histoire.
C'est admirable que c'est toujours un petit peu entre la réalité et l'extraordinaire. Peut-être tout simplement c'est ce bélier qui a fait qu'il a arrêté de le geste.
Alors, le déclic, vous avez dit déclic. Alors moi je veux bien retenir le terme de déclic, parce que quand on regarde le texte de Genèse 22, 1-17, au verset 12, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Il reprit, donc ça c'est l'ange, « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Alors ça doit nous interroger, parce qu'on doit se dire, y aurait-il eu un moment où Dieu ne savait pas, par exemple? Cette mise à l'épreuve, est-ce que c'est la mise à l'épreuve d'Abraham ou la mise à l'épreuve qui lui permet de savoir qu'il a la foi en Dieu? Jusque-là, Abraham ne savait pas qu'il a foi en Dieu, qu'il avait foi en Dieu. La preuve, c'est qu'il lui dit « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. » Ça monte crescendo quand même. « Que tu aimes, pars vers le pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste. » Et que fait Abraham? Eh bien Abraham se lève de bon matin, il semble son âne, enfin comme s'il allait cueillir du bois, voilà, comme s'il allait commencer une journée tout à fait classique. Abraham ne sait pas qu'il a foi en Dieu. Il est dans une espèce d'obéissance de soumission, oui, on peut dire ça, de soumission, mais on voit bien qu'il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à analyser ce qui se passe. Il part, il le fait, il obéit. Mais maintenant je sais que tu crains Dieu, c'est maintenant je sais que toi, Abraham, tu sais que tu as la foi. il fallait qu'Abraham en passe par là pour que soit révélée à lui la foi qu'il a en Dieu. À partir de là, la promesse de la terre peut se produire. L'accomplissement de la promesse de la descendance peut se faire. Voyez ? Dites-moi. Oui, c'est vrai, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'Abraham, que sa foi lui soit révélée à lui-même. Mais c'est tout à fait juste. Jusque-là, Abraham ne savait pas jusqu'où il avait la foi en Dieu. Son obéissance a sûrement, ou sa soumission, ce qui est très juste, a sûrement masqué ce qu'il pensait peut-être être de la foi. Après, c'est quoi la foi ? Eh bien, pour lui, la foi en Dieu, c'est d'être capable d'aller jusque-là, d'aller jusqu'à sacrifier son fils. On pourrait dire, d'une certaine façon, et là c'est peut-être une extrapolation, on pourrait peut-être aussi dire pourquoi le Père accepte que le Fils meure sur la croix. C'est son unique, il l'aime, et pourtant il meurt sur la croix. Vous voyez, on est vraiment... Oui, dites-moi. Le fait que ce ne soit pas un Dieu sacrificateur, on voit bien le changement de paradigme. C'est-à-dire on ne sacrifie plus au nom de Dieu. Si tu crois et si tu as la foi en un Dieu unique, alors le sacrifice ne fait plus partie de la foi de l'Holocauste. Oui, il faut des prières, ou des, voilà, mais pas cela.
Le parallèle que vous avez fait avec Dieu qui accepte que son fils, son unique, meurt sur la croix, ça met des mots pour moi sur ce que je voyais depuis le début dans ce tableau, parce que je suis frappée par l'endroit où le couteau va tomber.
Oui.
Il tombe sur le, enfin, je pense, hein, sur le côté d'Isaac.
C'est vrai.
Et ça me faisait penser toujours au côté du Christ.
Oui, c'est ça, la plaie au côté du Christ.
Et
oui.
Voilà, je pense, moi, si on pensait à ça aussi.
Alors, on pourrait pas répondre à est-ce que Rembrandt pensait à ça. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que un auteur ou un peintre peint toujours ou écrit toujours avec une intentionnalité. Donc, il ne serait pas étonnant que Rembrandt ait eu l'intentionnalité, d'abord en faisant un couteau en forme de sabre, en petit sabre, que ce couteau tombant touche le côté, effectivement, et qu'il y ait un parallèle entre le Fils, l'unique, et celui qui aime et qui meurt sur la croix. En fait, on a là un sacrifice qui n'a pas lieu, et pourtant, sur la croix, on a la mort du Fils et de l'innocent, et là, ça a bien lieu. Alors peut-être que ce que vous avez vu là pourrait correspondre à si le couteau était tombé, il aurait blessé le côté. On a peut-être là une anticipation à la crucifixion et à la plaie sur le côté du Christ. Comme on pourrait dire que le Nouveau Testament vient accomplir ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Après, je ne pourrais pas vous dire si Rembrandt avait pensé tout ça, mais bon, dites-moi.
Moi, non, l'analogie là, qu'on peut effectivement tenter de poser avec le Christ sur la croix... Moi, je vois quand même une différence, c'est que là, c'est quand même le Père qui s'apprête à tuer le Fils, alors que sur la croix, Dieu, le Père, laisse le Christ faire tuer, mais c'est quand même les hommes qui le tuent, c'est pas lui.
On est d'accord. C'est toujours important de bien faire la différence. Lorsque le Fils est condamné à mort, il n'est pas condamné par le Père. Ce n'est pas le Père qui condamne à mort le Fils. La condamnation, la mort de Jésus en croix, c'est une condamnation humaine. La réponse à cette condamnation, la réponse du Père à cette condamnation, c'est la résurrection. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration là. Vous avez vu un parallèle ?
Non.
Ah bon, voilà, d'accord.
Okay. L'objection,
c'est ça. Objection parallèle. C'est ça, d'accord, oui, tout à fait juste.
Moi, c'est. Ça ne vient pas de moi, mais je répète parce que le mot est très beau.
Oui.
C'est Dieu de tous les possibles.
Oui.
Donc la puissance est dans les possibles, et pas la puissance.
La toute-puissance est dans les possibles.
Oui, c'est ça. C'est le Dieu de tous les possibles.
Ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui, oui. Oui. Cette subtilité est, à mon avis, très juste. Parce qu'on a tendance à ignorer que pour Dieu, tout est possible et que sa puissance, elle est dans cela, elle réside en cela. En revanche, nous, nous faisons une lecture d'un Dieu tout-puissant qui peut tout et son contraire. Et ça, c'est très... Ça plombe en théologie, on est bien embêté. Bon, ben merci beaucoup. À la fois prochaine, je file.